Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Salut les chats, salut les chatons, il est 14h, c'est Rayon libre et on n'est pas en direct cette semaine. Alors cette semaine, y aller, mais au-delà, à vélo et au moral. Sur les pistes cyclables, il y a un marronnier. Dans la presse, un marronnier, c'est un sujet qui revient comme un rendez-vous tous les ans. Au printemps, par exemple, c'est les astuces pour avoir son body summer. En automne, le marronnier du vélo, c'est la feuille de marronnier, justement, sur les pistes cyclables. Les feuilles de marronnier, même, les tas de feuilles. Le marronnier, c'est ces photos de pistes cyclables couvertes de ce tapis. Souvent, à côté de cette piste cyclable, une photo de la chaussée, aux voitures, cette chaussée toute propre. Comme si quelqu'un de maléfique s'était amusé, rien que pour nous emmerder, à prendre toutes les feuilles sur la route et les mettre sur les pistes cyclables. Ce marronnier, c'est des grands mots. La violence routière commence ici, avec une piste cyclable mal entretenue. Ou encore, comme par hasard, la voie des voitures est déblayée. À quand un peu de considération pour les pistes cyclables? Bien entendu, rouler à vélo sur un tapis de feuilles mortes, c'est ok quand on est dans la forêt. C'est pas génial quand on est sur un vélo pensé pour le bitume. D'abord, il n'y a généralement pas de maléfice. Juste les feuilles sont poussées naturellement là où le souffle du véhicule est quasi neutre, i.e. là où souffle le cycliste. Ensuite, plus il y aura de pistes cyclables sécurisées, plus il y aura de feuilles dessus en automne. Quand la piste est protégée par un parapet à gauche, un trottoir à droite, et ben cet espace devient un piège à feuilles. Enfin, je crois qu'en devenant cycliste, on devient un peu plus conscient de la nature. Je crois qu'en devenant cycliste, on a envie d'une ville plus végétalisée, avec plus d'arbres. Donc plus d'arbres, ça veut dire plus de feuilles. Les feuillus, par essence, ils font leur mue à l'automne. Par essence, les feuilles se posent donc sur la chaussée, souvent sur une piste cyclable. Le bon signe, c'est que s'il y a des feuilles sur une piste cyclable, c'est qu'il y a une piste cyclable. Acceptons que quelques jours par an, ces pistes cyclables soient couvertes de feuilles, c'est la nature. Acceptons, accepter, voilà un mot que n'a pas voulu écouter mon invité du jour. Il n'a pas voulu accepter le diagnostic médical, il n'a pas souhaité se résigner. Il a refusé l'évidence. L'évidence médicale, la paraplégie, une chute en VTT atteint sa moelle épinière. Sur le lit d'hôpital, les médecins lui disent qu'il ne marchera plus, qu'il ne fera donc plus de vélo. Ce diagnostic ne l'intéresse pas, il le refuse. Par miracle, mais est-ce un miracle, à force de volonté, d'envie, par chance aussi peut-être, petit à petit, il se remet sur pied. Il pose un pied, l'un devant l'autre, il retrouve l'usage de ses jambes et aujourd'hui, il pédale à nouveau. Aujourd'hui, il présente son histoire à travers un film Beyond Prognosis, qu'on pourrait dire au-delà du diagnostic. Une histoire de résilience, d'accident de parcours, de chance aussi, parfois. Je crois, parce que le message de ce témoignage ne doit pas être « quand on veut, on peut ». Yanis a eu cette chance, mettre en mouvement sa volonté. Bonjour Yanis Pelé et merci d'être avec nous au micro en studio aujourd'hui.
Bonjour et merci à vous de m'accueillir, c'est un plaisir.
Ouais, pareil, c'est partagé. Vous venez du Sud, hein?
Tout à fait, à Arménie-Soie. Dans le Mercantour.
Et c'est super que vous soyez en studio avec nous. Yanis, là comme ça, le message le plus important que vous avez envie de transmettre dans ce film Beyond Prognosis, c'est lequel? C'est un pronostic que vous refusez?
C'est un pronostic que je refuse, c'est un message d'espoir aussi. Montrer que le mental a une force incroyable et prouver que la force de l'esprit permet de réaliser de grandes choses.
Ouais, et alors quand même, c'est ce que je dis dans mon introduction, c'est qu'il n'y a pas qu'une question de vouloir et de pouvoir. Vous avez quand même un peu de chance dans votre malheur, non?
J'ai eu la chance, c'est sûr, il y a de la chance. La chance d'avoir été pris en charge rapidement, d'avoir été opéré dans des bonnes conditions par quelqu'un de très fort qui m'a probablement sauvé. La chance d'avoir été très bien entouré et la manière dont j'ai été entouré qui m'a permis de mettre tout en œuvre pour récupérer. Et après, il y a une grande part de travail aussi en parallèle.
Alors justement, il faut peut-être aussi vous resituer, vous Yanis Pelé, au départ, vous êtes quand, avant votre accident, vous êtes quoi? Vous êtes un rider pro?
Je ne suis pas rider pro, je suis un grand passionné qui rêve grand, qui rêve de devenir un rider pro. Je roule en compétition de VTT de descente, ouais. J'avais atteint un niveau mondial et j'ai eu mon accident du coup sur la première manche des Coupes de France.
Mais alors vous aviez atteint un niveau mondial, ça veut dire que c'était pas votre métier dans le sens où vous ne gagnez pas votre argent, mais enfin vous alliez chercher quand même des médailles au niveau mondial, vous faisiez partie de l'élite mondiale.
Je faisais partie des top 20 mondiaux dans ma catégorie, si on peut dire.
Et alors c'était quoi votre catégorie?
Junior à l'époque.
Junior. Et alors votre accident, c'est quoi? C'est une chute et le diagnostic, c'est quoi?
Mon accident, c'est une chute sur une compétition, du coup sur la Coupe de France, ouais. Où sur un saut, je pars en avant et j'atterris sur la tête. Et à partir de ce moment-là, en fait, comme par les flèches, j'avais le souffle coupé. Et je me mets debout pour récupérer mon souffle, j'enlève mon casque et j'avais une douleur énorme au niveau du dos. Du coup, je m'allonge et je sens petit à petit que mes jambes tombent sur le côté. Ouais. De là, je suis à l'héliporté d'urgence, opéré à Grenoble. Et là, on m'annonce du coup le fameux diagnostic où je suis paralysé et avec deux vertèbres fracturées, la moelle épinière est touchée.
Et alors, le diagnostic ou en tout cas le pronostic de vos médecins, c'est quoi ? C'est Yanis, je suis désolé, c'est fini, vous, le reste de votre vie, ce sera dans une chaise roulante ?
C'est ça, ouais, les médecins m'annoncent que ouais, je ne pourrai plus jamais remarcher ou du moins, ils me laissent une très très infime chance de remarcher un jour. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est impossible d'y croire, c'est inconcevable de visualiser ma vie future en fauteuil roulant, surtout que je suis un grand passionné de sport, j'habite en haute montagne à 1500 mètres d'altitude.
Ouais.
Et à Auron, tout à fait.
Ouais. Du coup, on les salue, les Auronais.
Ouais. Et du coup, le sport, c'est toute ma vie, la montagne aussi. Et pour moi, il est impossible de croire ce pronostic, quoi. C'est impossible.
Vous aviez quel âge ?
J'allais avoir 18 ans.
Et aujourd'hui, vous avez ?
26 ans.
26 ans. À quoi ressemblait votre vie avant l'accident ?
J'étais étudiant et rider. Je passais beaucoup de temps en montagne, tous les week-ends sur le vélo, l'hiver sur les skis. Une vie outdoor avec plein de potes et du kiff, quoi.
Et votre vie aujourd'hui, alors on en reparlera un peu après, mais votre vie aujourd'hui, elle ressemble à quoi ? À celle que vous aviez avant ?
C'est une vie outdoor aussi. Je réalise un rêve de gosse en vivant de ma passion, pas dans la compétition cette fois, mais dans la création de contenu et de projets vidéo. Mais c'est une vie de rêve et c'est la vie dont j'aurais rêvé aussi quand j'étais jeune. C'est pas la quête des médailles, mais c'est la quête de belles histoires et de la création de belles images.
Combien de temps ça a duré entre le moment où il y a donc ce diagnostic ou ce pronostic que Yanis, tu marcheras plus, et le moment où finalement vous remarchez, mais vous retrouvez, je dirais, est-ce que d'ailleurs vous retrouvez aujourd'hui, vous avez les mêmes capacités physiques qu'avant ?
Non, aujourd'hui j'ai récupéré, je pense, 80% de mes capacités. Je ne peux pas courir dû à la spasticité, qui est quelque chose qui se met en place. À la spasticité, c'est quelque chose qui se met en place dû à un accident neurologique. Ouais. Et dans mon cas, dans les cas les plus extrêmes, je peux faire des spasmes dans les jambes ou du moins même dans les bras si t'es tétraplégique. Pour moi, ça me raidit les jambes dans les mouvements très rapides et ça me raidit aussi un peu les jambes avec le froid, avec le stress, la fatigue.
Ouais.
Donc c'est un peu ça qui me gêne au quotidien. Mais
vous
je suis quand
pas
même
stressé,
debout, je suis pas stressé. Mais je suis au quotidien, je suis sur mon vélo dans la nature et je peux pas mieux rêver.
Et donc votre vie aujourd'hui, elle est pas si loin que ça de ce que la vie que vous aviez avant ?
Elle est pas si loin que ça, hein. Elle est même aujourd'hui, je l'apprécie même encore plus. Je vois la vie différemment, j'apprécie chaque moment et je suis super heureux et épanoui d'être debout en bonne santé et de vivre mon rêve avec des passionnés, avec des potes. Parce que ceux avec qui je travaille, c'est des potes avant tout.
Ouais.
Et on vit des expériences inoubliables sur chaque tournage et au quotidien. Donc, je ne sais pas si c'était la vie que j'espérais. Parce que moi, quand tu es jeune et que tu fais de la compète, tu espères une vie en compétition. Mais là, c'est une vie avec la découverte de nouveaux paysages, avec de la création de contenu, de mettre en image ces idées les plus farfelues. Et ça me plaît tout autant. Et puis, le monde de l'image, c'est un milieu aussi qui me passionne depuis tout petit. Donc, donc je m'y retrouve.
Je vous ai un peu coupé la parole tout à l'heure en l'une des premières questions. C'est... Quel message est-ce que vous souhaitez porter avec ce film, notamment Beyond Prognosis, et puis je dirais les tournées que vous faites ?
C'est un message d'espoir avant tout. En fait, c'est un film que j'aurais aimé voir quand j'ai eu l'accident. C'est pouvoir se référencer à un cas concret qui a réussi et se dire, en fait, s'il a réussi, pourquoi pas moi ?
Ouais.
Donc, c'est partager ce message d'espoir, partager des clés qui ne sont pas les clés qui te feront récupérer, mais des clés qui pourront apporter du positif dans tous les cas.
Ouais.
Et puis du coup, partager ce message d'espoir au plus grand nombre et au-delà du monde du vélo, aussi à des personnes dans tous les milieux que ça peut aider au quotidien, quoi.
Ouais. À quel moment, parce que là, ce film Beyond Prognosis, c'est des images d'archives et puis c'est aussi des images d'aujourd'hui, enfin votre vie, votre reconstruction, je dirais. Mais à quel moment vous dites tout ça, là, tout ce que je suis en train de parcourir et tout ce que je suis en train de vivre et tout mon chemin, faut que je le filme ?
C'est venu, je dirais, 3 ans après mon accident où j'ai eu l'idée de ce film. Du coup, j'ai contacté la boîte de production Almo Film qui ont cru en mon histoire et qui ont voulu la raconter. Et donc, avec Alexandre Silva et Morgane Faucheur qui sont réalisateurs, ils ont fait un travail énorme. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai voulu partager ce message pour pouvoir aider à mon tour des gens qui peuvent en avoir le besoin.
Ouais. Vous avez gardé, un lien avec le monde médical et avec les gens que vous avez croisés. Vous leur présentez, par exemple, ce film ?
Bien sûr, bien sûr. Le chirurgien qui m'a opéré est venu à l'avant-première du film ce printemps. Il était hyper touché et il est en train de travailler pour qu'on puisse le diffuser au sein de l'hôpital. Ouais. Et l'objectif, c'est aussi de le diffuser dans des centres de rééducation, dans des près d'étudiants, pardon. Et ouais, partager ce message au plus grand nombre. Et je garde des liens, bien sûr, avec l'équipe médicale. On a notamment rencontré un chercheur qui a analysé mon cerveau pour ce film et qui ont fait des découvertes assez extraordinaires. Donc non, c'est.
C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ce film, c'est qu'il y a un moment donné, il y a une sorte de questionnement ou de quel est le pouvoir du cerveau sur le corps ?
Tout à fait, ouais, pour crédibiliser le film et comprendre vraiment ce qui s'est passé dans mon cerveau, on a fait des études sur mon cerveau avec une équipe de scientifiques à Lyon qui ont découvert en fait que suite au process mental que j'ai mis en place, j'avais activé beaucoup plus de cellules dans mon cerveau que la normale. Et c'est un process complet qui consiste en fait à se visualiser le cerveau qui envoie l'énergie dans son corps et ensuite s'imaginer en train de faire du sport, en train de marcher, en essayant de ressentir les mêmes sensations qu'on a avant l'accident. Donc c'est vraiment un process complet qui part du début de l'information jusqu'à sa finalité, le mouvement.
Et ça, ce process, c'est ce qu'on voit aussi dans votre film.
Je marcherai,
etc. Enfin, vous avez rempli des feuilles complètes de cahiers. C'est un truc qui vous vient spontanément, tout seul, du haut de vos 18 ans, en disant mais je vais l'écrire et en l'écrivant, ça va devenir réalité.
J'ai été soutenu en fait par Guillaume Néry et Fabien Barrel, qui sont eux-mêmes champions dans leur catégorie en apnée et en VTT de descente et qui ont beaucoup utilisé le mental dans leur carrière respective. Et ce sont des amis de longue date qui m'ont beaucoup aidé pour cette partie mentale. Et déjà, dès le début où je me suis mis en tête que j'allais remarcher et que je suis allé au-delà de ce que peuvent dire les médecins, à partir de ce moment-là, je m'étais mis en tête que j'allais marcher. Et je pense que j'ai commencé cette routine mentale sans le savoir. Et ensuite, j'ai mis en place une routine beaucoup plus précise grâce à Guillaume et Fabien.
Qui sont des sportifs de haut niveau.
Bien sûr, sportifs de haut niveau, champions du monde dans leurs catégories respectives.
Et est-ce que le fait d'être un compétiteur et le fait de courir, alors peu importe en vrai qu'on soit au niveau mondial ou au niveau France ou même au niveau départemental, en vrai on s'en fout un peu, mais ça dénote quand même un esprit de compétition. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a servi à votre avis ?
Moi je suis convaincu, la compétition ça forge un mental, ça force une capacité à se dépasser, à aller au-delà de ses limites et à vouloir gagner. Et là c'était pas mon combat contre, c'était pas le pas de vouloir faire un podium, mais c'était un combat contre moi-même et un podium contre moi-même finalement.
Ouais.
Donc c'est sûr que la compétition forge un certain mental. Ouais.
Vous, c'est marrant, c'est étonnant, vous dites combat contre vous-même, est-ce que c'est pas un combat avec vous-même ? Enfin, pour le coup là...
Vous avez peut-être raison, peut-être un combat avec moi-même pour me permettre de grimper sur la plus haute marche du podium qui est le mien, ce podium, et pour atteindre mon objectif qui était de remonter en selle.
Ouais. Ça a été votre objectif, avant de remarcher, l'objectif c'était « mais moi je veux refaire du vélo ».
Ah bien sûr, c'est la passion, c'était ma vie, c'est ce qui m'anime au quotidien, et pour moi c'était remarcher pour remonter en selle.
Ouais, donc c'était même, enfin la marche c'était une étape vers le vélo,
tout à fait, ouais.
Le premier jour où vous remontez sur un vélo, c'est combien de temps après ?
Un an et demi après l'accident.
Seulement. Quelle sensation, vous vous souvenez de ça ?
C'est incroyable, c'est indescriptible, bon, ça s'est fait... pas à pas, mais c'est un rêve qui se réalisait, c'est ce dont je rêvais dans mon lit d'hôpital, et c'est retrouver la liberté, retrouver les sommets qu'on adore, et retrouver aussi des moments dans la nature avec les copains, et c'était incroyable.
Parce que vous faisiez de la descente, hein, c'est ça, hein ?
Tout à fait, mais je passais quand même beaucoup de temps aussi en montagne, en VTT enduro, en randonnée, trail, etc. Ouais.
Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il dit votre entourage ? Ils sont inquiets ? Parce que j'imagine que vous avez un papa et une maman. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient leur fils qui allait pas très bien et qui était même très mal en point un an et demi avant et qui vous voit reposer vos fesses sur un vélo ? Faudrait que je leur demande à eux, mais...
Ça leur fait des cheveux blancs, c'est sûr, mais ils savent que c'est ça qui me rend heureux, ils savent que je suis épanoui là-dedans, et ils préfèrent me voir heureux en montagne sur un vélo que dans mon canapé à me morfondre. Et en plus, je pense que c'est tout aussi dangereux d'être dans un canapé que d'être dans la nature en montagne ou quoi que ce soit, donc ils sont super heureux pour moi. Et ils me font confiance sur le fait que maintenant je ne dépasse pas mes limites et je sais ce que je fais et j'essaie de tout calculer, quoi.
Alors c'est intéressant ça aussi, ce que vous dites là, vous parlez de pas dépasser ses limites et d'avoir une sorte d'aller, on va dire, d'essayer d'être un peu raisonnable dans votre façon de pédaler. Ça a changé ça aussi, vous avez grandi d'un coup ?
Bien sûr, ouais, quand on est jeune et qu'on fait la compétition, il y a une certaine fougue, la fougue de la jeunesse, c'est peut-être ça qui m'a sauvé, le fait de croire et de pas forcément se rendre compte de la gravité des choses. Et aujourd'hui, je connais mes limites, je les dépasse moins. Même plus du tout, et je sais ce que je fais exactement, ouais, tout à fait.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une autre approche du vélo?
Une autre approche du vélo, et je pense que c'est simplement de la maturité qui est entrée en jeu, et profiter différemment en fait. Parce qu'en compétition, on est toujours poussé pour aller plus vite, pour aller chercher le chrono, du coup c'est sûr qu'on dépasse nos limites. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Ouais. Moi, le principal, c'est de passer du bon temps dans la nature, découvrir de nouveaux endroits, et réaliser de belles images, et du coup, j'ai pas le besoin de rouler à 110%. Et je me fais tout autant plaisir à rouler à 80%.
80%, mais c'est 100% pour vous ou c'est 80% parce que vous me disiez juste avant que vous allez retrouver à peu près 80% de vos capacités?
C'est 80% de mes capacités, je pourrais aller beaucoup plus vite.
Ouais.
Mais c'est simplement que je prends autant du plaisir à rouler à 80-100%. Ouais.
Et donc ça veut dire que maintenant, c'est vos copains qui vous attendent?
Ouais, bon, je sais pas, ça dépend, mais sur le vélo, on roule comme j'ai envie et je prends encore plus de plaisir qu'en accident. Ma vision des choses a changé et je profite de chaque moment et je suis le plus heureux du monde sur un vélo et c'est incroyable.
Ça fait 15 minutes hein, qu'on est en train d'échanger, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.fm. On va rentrer bientôt en deuxième partie de l'émission Rayon Libre qui est enregistrée le 22 novembre. Elle sera diffusée à peu près normalement le 2 décembre. Mais enfin bon, on n'est pas à l'abri d'un changement de programme. Je vais donc pas faire d'agenda cette semaine. On s'écoute Je pense à toi de Amadou et Mariam. Il est 14h15. Nous sommes avec Yannis Pelé. Il a encore 2-3 choses à vous dire après cette pause musicale, 2-3 choses à vous dire à propos du sport et à propos du corps. On s'écoute Amadou et Mariam et on se retrouve dans 3 minutes.
Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Abandonne pas mon amour, ma chérie. m'abandonne pas, mon amour, ma chérie.
Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.fm, deuxième partie de Rayon Libre avec Yannis Pelet, un miraculé. Et d'ailleurs, est-ce un miraculé? En tout cas, il vient nous parler de lui, de sa vie avant son accident et après. Il présente un film Beyond Prognosis, au-delà d'un diagnostic ou d'un pronostic. Yannis, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce mot miraculé?
C'est une bonne question. Miraculé, je ne sais pas, mais c'est tout ce que j'ai pu en mettre en place pour atteindre cet objectif et la chance qui m'a souri aussi à certains niveaux. Donc, miraculé, oui, mais il y a plus que ça, je pense.
Le vélo, pour vous, c'était quoi?
Le vélo,
à
pour moi,
17, 18 ans.
C'était ma vie, c'était ma passion, c'était une carrière dont je rêvais et ouais. C'est ce qui m'animait au quotidien.
Ouais. Et vos parents vous poussaient?
Mes parents m'ont jamais poussé, ils m'accompagnaient. Ouais, ils me permettaient de réaliser ma passion, de mettre dans les bonnes conditions, ils me permettaient de m'entraîner comme il fallait, mais ils m'ont jamais poussé à me mettre la pression du résultat, à me mettre quelconque pression. C'était seulement un accompagnement.
C'était votre volonté à vous, en fait.
C'était c'est ouais. Ça, je suis pas né d'une famille de sportifs, ils faisaient pas du tout de vélo. C'est une passion qui est venue de moi-même, et donc ils m'ont jamais poussé dans aucun des sports que je faisais, c'est simplement de l'accompagnement. Je pense que c'est pas très naturel de pousser ses enfants. Mais
vous en avez des enfants?
Je n'ai pas des enfants, non.
On en reparlera quand vous en aurez.
On en reparlera
quand j'en aurai. Et le vélo aujourd'hui, pour vous, c'est quoi?
C'est toujours une passion, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, mais c'est aussi maintenant devenu mon métier.
Ouais.
Et c'est un rêve qui se réalise, c'est incroyable.
Alors dites-nous justement, alors le vélo, c'est un truc qui a failli tout vous prendre quand même, puis aujourd'hui qui vous rend beaucoup de choses, j'ai l'impression. Dites-nous quand même, vous l'avez un peu abordé dans la première partie de l'émission, mais votre métier aujourd'hui, c'est quoi?
Aujourd'hui, mon métier, c'est d'être ambassadeur pour des marques de vélo. Donc ouais. Ambassadeur, ça passe par de la création de contenu sur les réseaux sociaux, de la création de contenu pour les marques, des réalisations de projets vidéo et du développement de produits, de la présence sur les événements avec les partenaires, voilà toutes ces choses-là qui me permettent d'apporter plein de cordes à mon arc et qui m'épanouissent au quotidien.
Vous me disiez aussi hors micro, juste avant de prendre le micro, que vous organisez une course pour lever des fonds. Dites-nous-en un peu plus.
Tout à fait, cette course, c'est le Stade Panduro. Elle est née en 2020.
Alors redites le nom, parce que même moi, je n'ai pas compris. Ça fait deux fois que vous le dites et deux fois que je ne la comprends pas.
C'est le Stand Up Panduro.
Ouais.
C'est une course caritative qui a lieu à Oron chaque mois d'octobre.
Ouais.
Et l'idée de cet événement, c'est de rassembler la grande famille du vélo pour fêter la fin de saison et pour rouler tous ensemble pour la bonne cause. En fait, j'avais à cœur de soutenir cette cause qui est très importante, tout en alliant avec le monde du vélo qui est le mien aussi. Et donc c'est un événement dans lequel on récupère des fonds pour l'association Neurogel en Marche qui œuvre dans la recherche à la moelle épinière. Et c'est un événement convivial avant tout, c'est pas qu'une course, c'est un événement où on se retrouve, où ils ont une journée où il y a des reconnaissances et puis le soir il y a un concert où on fait la fête tous ensemble et le lendemain du coup qui est dédié au chronomètre.
Donc vous produisez des films et donc il y a ce film que vous présentez qui s'appelle Beyond Prognosis. On peut le voir où? On peut le voir quand? Ça dure combien de temps? Dites-nous-en un peu plus quand même.
Ce film du coup c'est un long format de 55 minutes qui est pour le moment
c'est un documentaire.
Un documentaire tout à fait qui est en diffusion pour le moment en festival un peu au travers de toute la France et qui sera disponible sur des plateformes VOD, SVOD d'ici le fin novembre, début décembre. Et on va aussi le diffuser dans d'autres événements par la suite.
Donc plateforme VOD, SVOD, vous nous direz quand vous aurez trouvé le distributeur et on en reparlera, on donnera rendez-vous à nos auditeurs, auditrices sur là où ce sera.
Tout à fait, on fait comme ça.
Dites-le nous. Et pareil, vous parliez de festival, vous présentez, vous êtes parmi la sélection du festival Tous en Selle. C'est quel film? C'est pas le même film qui est présenté?
Bien sûr, ouais, j'ai la chance d'être sélectionné pour le festival Tous en Selle où il y a de nombreuses dates dans toute la France. Et c'est un autre film, c'est un projet World Tour, c'est un tour du monde à notre façon. Pour vous teaser, c'est un tour du monde en restant en France, mais je n'en dis pas plus. Du coup, la première de ce projet World Tour a eu lieu au Grand Rex pour le festival Tous en Selle et sera disponible sur YouTube au printemps prochain.
Pas avant?
Pas avant.
Pourquoi?
Parce que c'est une note de voyage et de le diffuser en plein hiver, ça a moins de sens. Il faut le diffuser juste avant les beaux jours.
Ouais.
Donc ça prend tout son sens de le diffuser au printemps et ça permet aussi de le laisser vivre en festival pendant l'hiver.
Sur des films comme ça, il y a des gros moyens de production. Combien de temps ça prend?
Par exemple, pour le film documentaire Beyond, on a eu, pour le projet qu'on vient de partager au Grand Rex, on a eu 3 mois de tournage, mais ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Donc c'est beaucoup de travail, il n'y a pas des moyens énormes, c'est pas non plus le cinéma, mais on le fait avec passion et avec les moyens du bord si on veut.
Et pareil, ce film-là, World Tour, vous avez envie de livrer quoi comme message? Vous pouvez nous le dire même.
Ce projet, c'est une ode au voyage local, une ode à l'aventure, et c'est de prouver en fait qu'en France, on a des endroits extraordinaires et que c'est inutile de partir au bout de la terre pour découvrir des beaux endroits et qu'en restant en France, on est déjà énormément dépaysé. Et je vous le dis, c'est la vérité, on a été agréablement surpris et on a dû faire un choix énorme dans les spots mais c'est incroyable ce qu'on a en France et je m'y attendais vraiment pas.
Mais la France est un des plus beaux, enfin je crois, c'est l'un des plus beaux endroits, ça concentre tous les paysages, ça concentre, c'est un pays à découvrir.
C'est un des plus beaux endroits, c'est hyper diversifié, on a de tout, la mer, la montagne, il y a de tout, honnêtement c'est incroyable et puis même au niveau de la gastronomie c'est hyper diversifié, enfin c'est un super bon endroit, ouais.
Est-ce que c'est un film, puisque là vous parlez un peu de, je sais pas si vous le savez, mais en gros la France a l'ambition d'être la première destination touristique à vélo dans le monde. Aujourd'hui, elle est entre deuxième et troisième. Le premier pays, c'est l'Allemagne. Est-ce que, j'en sais rien, le ministère du tourisme, il vous soutient sur un film comme ça?
Non, pas du tout.
Ben pourquoi?
On pourrait leur en parler.
Ben oui.
Je serais chaud.
On va les appeler.
Tout à fait.
Ouais, non, mais ceci dit, enfin, quand on voit ce qu'ils mettent en œuvre, l'idée de ce film, c'est ça, c'est de dire, hey, rouler en France, vous allez voir, c'est un truc de ouf.
Exactement, ouais.
Ouais.
C'est rouler en France, vous allez voir, c'est incroyable. Au-delà des paysages, c'est aussi des trails hyper diversifiés, que vous allez dans le sud de la France, en Savoie, vers Clermont-Ferrand, enfin de partout, c'est hyper diversifié. Donc franchement, il y a de tout en France et c'est pas pour rien qu'on a une grosse, grosse sphère de sportifs très bons en France.
Et c'est plutôt malin qu'il soit sélectionné chez Tous en Selle, qui va faire le Tour de France.
Tout à fait, tout est bon.
On arrive à la fin de cette émission. Alors Yanis, j'aurais une dernière question pour vous. Vous avez 3 minutes, le temps de la chronique d'Abel Guggenheim pour y réfléchir. Alors jusqu'en janvier, chaque semaine, je vais solliciter mes invités sur ce sujet de la mission d'Emmanuel Barbe. Je reprends les mots de François Durouvray, qui est notre ministre des Transports. Mais François Durouvray, il a nommé Emmanuel Barbe pour lui donner la mission de proposer des solutions concrètes, innovantes et pragmatiques pour lutter contre les violences routières, les conflits d'usage et mieux assurer le partage de l'espace public. Vous, Yanis, quelle serait la solution concrète, innovante ou pragmatique pour lutter contre les violences routières que vous aimeriez proposer à Emmanuel Barbe? Mais avant d'y répondre, on va s'écouter Abel Guggenheim. Peut-être que lui aussi, il a des propositions à faire à Emmanuel Barbe. En tout cas, Abel, c'est à toi.
Bonjour. Je vous parle rarement de politique, ce n'est pas mon sujet. Je ne le fais que lorsqu'un sujet politique a un rapport avec le vélo. C'est le cas aujourd'hui. Comme je le précise à chaque fois, et je le fais à nouveau aujourd'hui, le rapport avec le vélo des hommes et femmes politiques est, contrairement à ce que beaucoup pensent, sans rapport avec leur positionnement politique. Je ne commenterai donc pas politiquement Michel Barnier, notre tout nouveau Premier ministre. Je ne parlerai que de son action vis-à-vis du vélo, action qui, à l'évidence, a été très positive. Michel Barnier a été ministre de l'Environnement de 1993 à 1995, lors de la deuxième cohabitation, lorsque le président de la République était François Mitterrand et le Premier ministre Édouard Balladur. Avec Bernard Bosson, ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme, il a tenu le 5 juillet 1994 une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé la mise en œuvre d'une politique nationale en faveur du vélo, c'était le titre du dossier de presse, avec notamment la création d'un poste de chargé de mission vélo au sein du ministère de l'Environnement et la nomination d'un correspondant vélo au CERTU, Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, ancêtre de l'actuel CEREMA, ainsi que dans chacune de ses antennes régionales, les CETE, Centre d'études techniques de l'équipement, ainsi que la création d'un comité de suivi de la politique vélo réunissant tous les acteurs concernés. Les correspondants au vélo, au CERTU et dans les CT ont élaboré les premières bases techniques des aménagements cyclables et le comité de suivi a mis en place les prémices d'une politique vélo à l'échelle nationale en liaison avec la Fédération d'usagers de la bicyclette et avec le Club des villes cyclables. Parmi les conséquences de ce travail, on peut noter les modifications législatives et réglementaires en faveur du vélo apparues à partir de 1998. Cette conférence de presse du 5 juillet 1994 a aussi mis en place à Paris les éléments de ce qui allait devenir Paris-Plage et la piétonnisation des voies sur berge. L'annonce de cette politique en faveur du vélo était en effet accompagnée d'un événement tout à fait exceptionnel pour l'époque. Sur une suggestion d'Isabelle Le Sens qui travaillait à son cabinet, l'ensemble des voies sur berge parisiennes a été réservé aux piétons et aux cyclistes le dimanche 10 juillet 1994, expérience renouvelée quelques mois plus tard le 30 octobre. 1994. La ville de Paris, sous l'impulsion de son nouveau maire Jean Tibéri, élu au printemps 1995, a rendu piétonnes les voies sur berge tous les dimanches à partir de l'été 1995. Piétonnisation étendue en 2001 par son successeur Bertrand Delanoë et son adjoint Denis Baupin aux jours fériés et à la période de l'été qui deviendra Paris-Plage à l'été 2002. La voie express rive gauche sera ensuite rendue définitivement piéton en 2013, suivie de la voie express rive droite en 2016. à lundi prochain.
Merci, c'était Abel Guggenheim. Yannis Pelé, je m'adresse à vous, alors soit en tant que citoyen, soit en tant que cycliste, soit en tant que piéton ou conducteur d'automobile. Quelle serait la solution concrète, innovante ou pragmatique pour lutter contre les violences routières que vous aimeriez proposer à Emmanuel Barbe ?
Je pense que ce serait dans un premier temps la sensibilisation à tous les usagers de la route, autant les cyclistes que les routiers. Montrer en fait qu'il faut se respecter entre nous et que chacun se rende compte en fait des dangers que ça procure. Et dans un second temps, le développement des pistes cyclables, parce qu'en France, je trouve qu'on est assez limité à ce niveau-là.
Merci beaucoup Yannis. Auditeurs, auditrices, et ben c'est le moment d'enfourcher votre vélo, de contribuer aussi à votre niveau à lutter contre les violences routières. Pédalez tranquillement. N'oubliez pas, hein, surtout, une journée sans pédaler est évidemment une journée...
ratée.
Exactement, gâchée. À la semaine prochaine, restez sur 93.fm, Cause Commune, il est 14h30. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine.
Rayon Libre.